différent, absolument. On en parle depuis le début de la série. Et c'est une des choses qu'on a tendance à tasser, à mettre de côté, comme dans cette confusion qu'on a dans la société. Non, l'homme et la femme sont différents et jouent des rôles parfois différents. Il y a un enrichissement. Mais ce qu'on trouve dans la Genèse, c'est un partenariat. Ils travaillent ensemble, ils sont unis ensemble. Puis vient la chute. Avec la chute, qu'est-ce qui vient? La méfiance, le conflit, la manipulation, la domination. Il n'y a plus d'harmonie. Et ça, c'est brisé. Qui va restaurer cette relation-là? Mais c'est celui qui restaure nos âmes. Amen? C'est celui qui restaure l'être humain, Jésus. Et donc, on arrive dans ce passage ce matin. On va aller dans quelques passages, mais on va regarder particulièrement à une femme. Plusieurs d'entre vous la connaissez bien, la femme samaritaine, parce qu'il y a tellement dans Jean chapitre 4, tellement de choses que Jésus fait et dit. Et cette femme-là est vraiment fascinante. Parce qu'elle va devenir, littéralement, la première missionnaire de Jésus. Littéralement, elle va devenir la première à porter le message du Messie. On va aller ensemble dans la prière, on va lire les Écritures ensemble, puis on va plonger dans ce très, très beau passage. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin avec un désir de toujours poursuivre, Seigneur, ce projet que tu as de restaurer l'humanité. Tu viens, Jésus, et tu nous prends comme on est, brisé par notre péché, par les péchés des autres autour de nous, par une société qui est fracturée, Seigneur. Tu viens, tu entres dans nos vies et tu entreprends ce projet de restauration, Seigneur. Non seulement tu nous réconcilies avec le Père, mais tu nous transformes progressivement à ton image. Toi, cet être humain parfait, en harmonie. Et ce matin, Seigneur, on veut porter attention à ton message concernant les femmes. Ce que tu as apporté, Seigneur, qui était contre-culturel, qui était beau, qui est inspirant et qui doit absolument nous instruire comme Église, Seigneur. Alors, je te prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit, alors qu'on vit toutes sortes de choses dans cette série, personnellement, dans nos foyers, dans nos couples, dans notre identité personnelle. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs par la puissance de ton Évangile. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen.
Amen. Bonjour. Alors, l'histoire de la femme samaritaine se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. Nous allons lire les versets 4 à 26 dans la nouvelle édition de Genève. Jean 4, 4 à 26. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Si l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, « donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. »
Merci Esther. Voici comment je résume l'exposé de ce matin, la prédication. Ce matin, on va voir que là où la chute a divisé hommes et femmes, Jésus restaure, il élève et il envoie. Avant de regarder à cette rencontre incroyable que Jésus a avec la Samaritaine, puis juste voir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette rencontre-là qui est vraiment magnifique, on fait un pas de recul juste pour regarder ce que Jésus dit et comment Jésus agit généralement avec les femmes, et vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Donc, on va aller dans quelques passages. L'image que j'aimerais déposer dans votre esprit, c'est celle d'une école rabbinique. Jésus est appelé rabbin, il est appelé maître, comme un enseignant religieux qu'il était, même s'il ne faisait pas partie d'une école officielle. Bien, ayez cette image d'une école rabbinique où vous avez un maître qui est en train d'enseigner, et ce que vous devez savoir, c'est qu'une femme n'était pas admise dans une école rabbinique. Elle ne pouvait pas être disciple d'un rabbin. C'est historiquement clair et vérifiable. Les femmes n'étaient pas admises là. Maintenant, je m'en vais rapidement, très, très rapidement, dans Luc chapitre 8, et on va voir ensemble que Jésus fait des femmes des disciples et des partenaires de la mission. Et ça va être présent à travers tout le ministère de Jésus. Déjà dans Luc 8, dans les versets 1 à 3, je fais juste résumer, les 12 étaient avec lui, parlant des 12 apôtres, ainsi que des femmes qui l'assistaient de leur bien. Et donc, là où les rabbins n'autorisaient pas à prendre des disciples féminines, Jésus autorise cela. Marie-Madeleine est présente, celle de laquelle Luc prend le temps de mentionner de qui Jésus a chassé 7 démons. Elle va revenir aussi plus tard, comme on va le voir. Jeanne, épouse de Chusa, haut fonctionnaire d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres, nous dit Luc. Et donc, dès le début de son ministère, Jésus se distingue dans sa manière d'agir avec les femmes, en les admettant absolument, en autorisant qu'elles fassent partie de ses disciples. Mais non seulement Jésus va les admettre, un peu comme si elles étaient là en marge, non, elles vont se comporter exactement comme les disciples. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus va faire? Bien, dans Luc 8, 21, on voit qu'un disciple va écouter et mettre en pratique. Bien, on retrouve Marie assise au pied de Jésus avec les disciples en train de s'instruire. Elle est littéralement dans une école rabbinique, en train d'apprendre et d'étudier ce que le maître est en train d'enseigner. Elle sert dans la mission avec Jésus. On voit ça dans Matthieu 27. Et enfin, on va y revenir à la toute fin du message, mais c'est une femme qui va être envoyée pour annoncer la résurrection de Jésus, Marie-Madeleine. C'est vraiment intéressant. Quelqu'un qui ne veut pas voir ce thème-là dans les évangiles est vraiment malhonnête avec les évangiles. C'est vraiment un manque d'honnêteté avec le message que Jésus veut envoyer. Les femmes ne sont pas des figurantes, mais des partenaires spirituels dans la mission de Jésus. Et c'est là constamment. Non seulement ça, mais Jésus, ça va sembler étrange ce que je veux dire, mais Jésus reçoit leur soutien matériel. C'était inadmissible à l'époque. On ne faisait pas ça, on n'acceptait pas le soutien matériel d'une femme, c'était contre-culturel. Jésus va se déplacer constamment avec ses disciples. Ses disciples sont autant des hommes que des femmes qui vont être présents. Jésus va accepter du soutien de leur part. Écoutez, il y avait une prière rabbinique qui est assez terrible. Il faut savoir qu'à l'époque où Jésus apparaît, il y a 2000 ans, il intervient dans l'histoire. Je l'ai déjà mentionné, une femme ne pouvait pas être disciple d'un rabbin, mais une femme ne pouvait pas non plus témoigner en cour. Son témoignage n'était pas admissible. Ce n'est pas des choses qu'on imagine, d'accord? C'est rapporté dans le Talmud. Il y avait une prière rabbinique, je suis désolé, je vais vous scandaliser, qui disait ceci, « Béni sois-tu de ne m'avoir fait ni païen, ni femme, ni esclave. » Vous trouvez ça dans le Talmud, Ménakhot 43b. D'accord? Alors, quand Jésus vient, pour nous, 2000 ans plus tard, ça peut sembler banal ce qui est en train de se passer, mais il n'y a absolument rien de banal. Jésus est en train de lancer un signal qui va venir transformer l'Église et qui continue à transformer l'Église depuis 2000 ans. Jésus montre que la mission avance grâce aux femmes et aux hommes, mais grâce aux femmes. L'Église doit être un lieu où les femmes sont honorées, où les femmes sont impliquées, entendues, envoyées, littéralement. Alors, si Jésus fait des femmes des disciples et des partenaires de la mission, on peut se demander à quoi ça ressemblait une rencontre concrète entre Jésus et une femme qui devient son disciple. Et on l'a exactement dans Jean 4. C'est pour ça que j'ai pris ce passage-là. On a une femme, c'est concret. Et là, Jésus fait éclater toutes les barrières culturelles qu'on peut imaginer. Donc, deuxièmement, Jésus restaure. Premièrement, on était dans une école rabbinique, d'accord? On est avec Jésus et parmi les disciples, il y a des hommes, des femmes. Maintenant, on se déplace, on s'en va sur le bord d'un puits. Et Jésus se retrouve là seul. Et on va voir ensemble que Jésus restaure une femme qui est brisée par ses péchés, par la société autour d'elle, et il en fait une missionnaire. Il en fait une missionnaire. Et peut-être que vous avez déjà lu ce passage-là en disant, non, attends, c'est de son initiative à elle. Oui, mais restez avec moi un peu, là. Comprenez que le simple fait que Jésus est allé vers elle a engagé la conversation avec elle. Il allait contre toutes les barrières de l'époque. C'est une femme qui est brisée par ses propres péchés, c'est ce que la société nous dit, et qui est marginalisée par la société, c'est ce que la Bible nous dit, et qui est marginalisée par la société. C'est une femme, premièrement, c'est une femme. Et donc, elle est déjà marginalisée. Je vous l'ai dit, elle n'avait pas le droit de témoigner, pas le droit d'être disciple d'un rabbin. Deuxièmement, c'est une Samaritaine. Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Donc, ils sont en marge de la société juive. Elle a une réputation discutable. Et on sait qu'elle a une réputation tout à fait discutable du fait qu'elle est seule au puits. Les femmes allaient ensemble au puits, mais elle y va seule. On peut en déduire tout probablement que les autres femmes du village n'allaient pas se présenter au puits en compagnie de cette femme-là. Jésus nous apprend et elle nous apprend qu'en fait, c'est une femme qui avait eu plein d'hommes dans sa vie. Elle est donc isolée. C'est une femme qui est brisée, qui est marginalisée dans sa société. Et ce que Jésus fait, il brise quatre barrières culturelles simplement en engageant une conversation avec elle. Je comprends que pour nous, ça a de l'air banal. On est en Occident, on est 2000 ans plus tard, mais ce n'est même pas banal dans toutes les cultures actuelles. C'est banal si tu es en Occident. Ce n'est pas banal dans toutes les cultures aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Alors, reportez-vous à l'époque. Jésus va parler à une femme, alors qu'il est seul. Il a une réputation à protéger. Il va parler à une femme alors qu'il est seul. Il va parler à une femme samaritaine. Il va d'ailleurs se le faire reprocher. Il va parler à une femme qui a un passé discutable. Et elle-même le relève. Elle est consciente que Jésus est en train de franchir des barrières culturelles, que Jésus contrevient au code de l'époque. Elle lui dit au verset 9, « Comment toi, un juif, me demandes-tu à moi, à boire à moi, une femme samaritaine? » Elle est troublée par son comportement. Ça ne devrait pas la troubler si les femmes et les hommes ont été créés égaux en dignité devant Dieu. Pourquoi? Mais parce que, tout ce qu'on a dit. Et Jésus vient dans une œuvre de restauration, c'est ça qu'il vient faire. Jésus restaure une femme brisée et il va en faire une missionnaire, littéralement. Comment toi, un juif, me demandes-tu à boire à moi, une femme samaritaine? Voyez-vous, ce n'est pas accidentel. S'il y a une chose qu'on apprend sur Jésus lorsqu'on lit les évangiles, c'est qu'il ne fait rien par accident. Il ne s'est pas réveillé sur le moment en disant, bon, j'ai chaud, je n'avais pas prévu le coup, les disciples sont partis. Tous ses disciples sont partis chercher de la nourriture, d'accord? Au village. Là, Jésus est mal pris. Non, Jésus n'est pas mal pris. Il est intentionnel. Il sait ce qu'il fait. Et donc, il agit intentionnellement, pas accidentellement. Et Jean, l'auteur de l'Évangile de Jean, veut qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Il veut que l'Église comprenne qu'on va devoir porter ce message-là, qu'on va devoir apprendre en observant Jésus. La manière de Jésus doit façonner nos réactions à nous, nos comportements à nous. Et la chute, et la méfiance, et les conflits, et les distances, et les rivalités, ça ne sera jamais une excuse pour l'Église de ne pas chercher à imiter Jésus. Non, c'est ça l'œuvre de l'Évangile dans nos vies. C'est une œuvre de restauration que Dieu est en train de faire. Et donc, il est en train de nous apprendre à marcher comme des hommes et des femmes de Dieu. Et ça va venir reconfigurer, ça va venir instruire, ça va venir transformer nos intuitions dans nos rapports les uns avec les autres. Et là où ça devrait être le plus manifeste partout sur la terre, c'est dans une église locale. C'est dans un foyer chrétien. C'est dans des rapports entre frères et sœurs. Non seulement Jésus brise quatre barrières, alors elle est brisée, Jésus va au-delà de ça, il va vers elle, il est en train de déjà de faire une œuvre de restauration, mais il va discuter de théologie avec elle. C'est Jésus qui va rapidement là. Il lui demande de l'eau, beau prétexte, technique d'évangélisation, les amis. Hein? Contact, premier contact. Est-ce que tu aurais de l'eau, s'il te plaît? Mais regardez le virage qu'il prend. Il va discuter avec elle de théologie très, très rapidement. Il va l'enseigner sur l'adoration. Il aborde la question de l'adoration du Messie qui est le Sauveur. Il engage cette conversation avec elle. Et donc, il est en train de dire, « T'es digne des plus grandes réflexions avec moi, engagé avec moi. » En fait, c'est très ironique parce que Jésus n'aura pas cette conversation-là avec Nicodème, un expert de la loi, avec Caïphe, avec Pilate. Une conversation plus profonde avec cette femme-là, plus riche. C'est vraiment beau. Il va parler avec elle de cette soif spirituelle qui habite tous les êtres humains. Hommes, femmes, de toutes les couleurs, de toutes les origines, il y a cette soif-là qui est présente en nous. Et j'espère, si tu es dans une quête quelconque ou tu cherches à connaître Dieu, tu es dans une église, ce n'est pas par accident, il n'y a pas d'accident avec Dieu. Même quand ça implique la souffrance, il n'y a pas d'accident avec Dieu. Il demeure au contrôle. Et si tu es ici ce matin à quelque part, c'est probablement, c'est possiblement, parce qu'il y a une quête en toi. Et j'espère que tu es sensible à cette soif-là qui t'habite. Parce que notre tentation, c'est d'assouvir cette soif-là de toutes sortes de manières, comme cette femme qui avait eu de nombreux hommes dans sa vie, mais qui cherchait probablement quelque chose qui se trouve en fait seulement en Dieu. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, « Si tu reçois de l'eau que moi je vais donner, tu seras plus drivé, tu seras plus dirigé par toutes ces soifs qui t'amènent dans une vie de désordre. Il y a quelque chose de profond en toi qui va être assouvi. Jésus lui parle d'adoration, il lui parle du Messie, le Sauveur qui devait venir. Il lui parle de cette soif qui habite tous les êtres humains. Il lui parle de l'Esprit de Dieu. Il engage une conversation théologique avec elle. C'est vraiment cool. Honnêtement, c'est vraiment intéressant. Et il va lui confier sa plus grande déclaration messianique, une révélation de sa personne. Il va lui dire, « Je le suis, moi qui te parle. C'est moi le Messie. » C'est quand même extraordinaire. Il ne dit pas à Nicodème, il ne dit pas à Caïphe, il ne dit pas à Pilate, mais à cette femme-là, non-juive, brisée, Jésus va parler de théologie, il va se révéler à elle. Et enfin, Jésus va restaurer sa vocation missionnaire. Parce que rappelez-vous ce qu'on a vu au début de la série dans Genèse. Dieu nous crée à son image pour qu'on soit un reflet de son image. Hommes et femmes, nous sommes tous appelés à faire connaître ce Dieu merveilleux, à refléter ce Dieu merveilleux. Tous les êtres humains sont appelés à ça. C'est une vocation. Dieu nous crée à son image, mais c'est pour qu'on reflète qui il est. Et avec la chute, cette vocation-là est abandonnée. Puis ce que Jésus fait avec elle, c'est qu'il se révèle à elle, sachant très bien qui elle est. Elle est vraiment fascinante comme femme, honnêtement, une femme extraordinairement courageuse, parce qu'elle va partir, dès que Jésus va lui confier ça, cette révélation de sa personne, mais elle devient la première évangéliste du Nouveau Testament. C'est intéressant, hein? Elle part, elle s'en va au village. Puis elle s'en va dire aux gens du village, « Venez voir un homme, au verset 29, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ? Est-ce qu'il ne serait pas le Sauveur qu'on attend? » Cette femme-là devient le premier évangéliste de tout le Nouveau Testament. Il la restaure dans sa vocation missionnaire. C'est vraiment, vraiment beau. Puis au verset 39, on lit « Beaucoup crurent à cause des paroles de la femme. » Dieu s'est servi de cette femme qui, lorsqu'il la rencontre, est une femme brisée, marginalisée non seulement par les Juifs, mais par sa propre communauté, les Samaritains. Elle va seule au puits, probablement marginalisée par les femmes de son époque, pour des raisons peut-être qu'on peut comprendre. C'était une femme qui avait une vie tout croche, comme on dit au Québec. Puis Jésus engage une conversation incroyable avec elle, franchit les barrières, commence à discuter de théologie, lui donne une révélation de qui il est. « C'est moi le Messie que les Juifs et les Samaritains attendent. » Et puis cette femme-là devient la première missionnaire qui va aller annoncer l'Évangile. Et les gens du village crurent à cause des paroles de la femme. Voyez-vous, Jésus ne se contente pas de rassurer des femmes blessées. Dans l'histoire de l'humanité, c'est une grande partie de l'histoire des rapports entre les hommes et les femmes, c'est le fait que les femmes ont été souvent blessées par une attitude de domination. D'accord. Mais Jésus ne fait pas que rassurer la femme samaritaine. Il lui donne un message et il restaure sa vocation missionnaire. C'est vraiment extraordinaire. Elle va porter ce message-là et son village va être bouleversé. Parce que le récit, si on va au détail, nous dit qu'ensuite ils ont cru à cause de ce qu'ils ont entendu de Jésus lui-même. Et donc elle va vers eux, elle est conduite à Jésus, et ces gens-là vont croire en lui. C'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas marginal, ce n'est pas banal, ce n'est pas une petite chose. Jésus ne se contente pas de rassurer les femmes blessées, il les établit et il les envoie. Elles font partie prenante de la mission. Et la question que nous, on doit se poser comme Église, c'est est-ce que ça, c'est évident dans nos foyers? Est-ce que c'est évident dans nos rapports les uns avec les autres? Est-ce qu'on est inspiré constamment de Christ, et les hommes et les femmes, pour être engagé dans cette œuvre-là de restauration? Reconnaître chaque être humain avec sa dignité, son appel, sa vocation de refléter la personne de Dieu. Hommes et femmes. Il n'y a rien d'accidentel dans ce que Jésus est en train de faire ici. Jésus est intentionnel. Ce que Jésus fait avec ses femmes, ce n'est pas un détail, une exception sympathique. C'est un signal qu'il est en train d'envoyer. On a commencé avec une école rabbinique et on a vu qu'avec Jésus, les femmes font partie de ses disciples. Sont assises là avec les autres en train d'apprendre. Elles participent, elles le servent, elles prennent soin de lui, elles pourvoient même, généreusement. Et on voit même que Jésus pénètre toutes les couches de la société, là, même parmi les femmes. Que ce soit une femme débauchée ou une femme qui était possédée de démons, des femmes d'influence, des femmes riches. Elles sont là autour de Jésus parce que Jésus restaure. Non seulement ça, Jésus fait de cette femme qui était brisée la première missionnaire qui va annoncer l'Évangile. Est-ce que vous voyez le signal du Nouveau Testament? Et comme on le dit depuis le début de la série, ce n'est pas qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas que nos rôles sont en toutes choses interchangeables. Non, ce n'est pas ça. Avec Clément, on a parlé du fait que la femme est celle qui donne la vie. Dieu vous a accordé une grâce qu'il n'a pas accordée aux hommes. Et constamment, à travers les Écritures, c'est la femme qui donne la vie. La femme représente littéralement la vie. Bon, on joue un petit rôle quand même là-dedans. Les Écritures ne le soulignent pas. Quand les Écritures parlent de l'homme, elles parlent de celui qui est gardien, celui qui se sacrifie. On va en parler davantage encore la semaine prochaine parce qu'on va parler de la dynamique dans un couple chrétien. Jésus envoie un signal. On a commencé avec une école rabbinique. On s'est dirigé vers un puits où il y a cette rencontre-là incroyable. Et je reviens à ma chaise. Parce qu'il y a un signal que Jésus est en train d'envoyer, qui va être là à travers tout le Nouveau Testament et que l'Église va continuer à étudier à travers les siècles. Parfois avec brio, parfois c'est pas si brillant. Mais ça va influencer l'Église à travers tous les siècles. Il y a quelques semaines, on a eu l'opportunité d'avoir une journée interculturelle pour les policiers de Longueuil à l'Église. Et l'idée derrière cette journée-là, c'était simplement de montrer aux policiers ce qu'il y a devant mes yeux. L'interculturalité dans l'Église. Parce que les policiers sont confrontés à toutes sortes de réalités, souvent difficiles, du racisme, des conflits, des tensions. Et puis là, nous, on se disait en parlant avec Philippe, mais l'Église, waouh, l'Église est belle. Tu veux que la société soit comme l'Église en termes d'intégration. Amen. Où tout le monde se sent accueilli, aimé, apprécié, valorisé avec toutes nos différences. Et donc, cette journée-là servait juste à donner ça comme un exemple, pour leur dire, regardez, si vous voulez voir la société, la ville de Longueuil, vivre de l'intégration, réalisez à quel point les églises peuvent être vraiment vos alliés. Vraiment vos alliés. Et donc, c'était subtil comme message, hein? C'était pas comme Jésus en croix, en pleine face. Non, c'était gentiment, juste dire, regardez. Regardez, posez-vous des questions. Et c'est ça que Jésus est en train de faire ici. Et donc, il y a un signal à travers tout le Nouveau Testament, la création est restaurée en Jésus. Si tu cherches Dieu, puis tu te poses des questions par rapport à l'Évangile, tu te dis, OK, c'est quoi ça le christianisme? Le christianisme, c'est un projet de restauration. C'est toi le projet. C'est moi le projet. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de partager avec des policiers qu'est-ce que c'est une église, puis j'ai dit, laissez-moi juste vous le dire comme ceci, une église, c'est une place où pour être admis, il faut que tu dises, je suis brisé. Ça, c'est la première condition pour te joindre à une église. Devant Dieu, ça ne marche pas mon affaire. Je ne m'en viens pas vous servir avec tous mes talents, tous mes dons, toutes mes compétences. Non, je suis brisé. C'est la première condition pour devenir chrétien. Donc, je disais aux policiers, vous savez, des gens brisés, vous pouvez nous en amener. S'ils pensent que Dieu peut les aider, ça va nous faire vraiment plaisir de leur parler de celui qui a entrepris une restauration avec nous depuis très longtemps. Et donc, si à quelque part tu cherches, si à quelque part tu es ici, c'est peut-être parce que tu cherches. Dieu t'a à cœur comme projet de restauration. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Et si tu as souffert des relations homme-femme où il y a de la manipulation, de la méfiance, de la domination, toutes sortes de choses, des trahisons, tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. Parce que Jésus a à cœur ta restauration. Et bien souvent, Jésus a à cœur notre couple aussi. Que notre couple puisse être restauré. Et c'est pour ça qu'on fait cette série-là. Jésus envoie un signal, la création est restaurée en lui. Et c'est ça qu'on veut établir ce matin et à travers toute la série. Jésus est en train de renouveler. Jésus est en train de créer une nouvelle création dans les rapports hommes-femmes. Et on se promène dans différents passages, mais il y a cette trame-là qui est continuelle dans le rapport entre Jésus et les femmes, et ça doit se traduire dans l'Église locale. On l'a vu à travers Luc 8, avec ces femmes qui sont auprès de Jésus. On l'a vu avec Jean 4, avec la femme samaritaine. Et je termine avec quelques passages, mais juste pour dire à quel point c'est fort et c'est présent dans tout le Nouveau Testament, bien, on le voit dans la généalogie de Jésus. Si vous lisez la Bible depuis longtemps, on a déjà porté votre attention sur ça dans la généalogie, mais c'est quand même très, très fort. Comme je vous dis, replacez-vous à l'époque. Là. Vous êtes, il y a 2000 ans, vous êtes dans un contexte juif. L'Évangile de Matthieu a été écrit spécialement pour les Juifs. Mais dans la généalogie, Matthieu prend le temps de souligner et d'inclure 4 femmes qui sont nommées. Normalement, les Juifs racontaient ou décrivaient leur généalogie à travers leur père. Et Matthieu va nommer 4 femmes, Tamar, qui est une femme qui a été trahie par son beau-père et qui s'est déguisée en prostituée pour coucher avec son beau-père et avoir un enfant. Elle est nommée dans la généalogie du Messie. Rahab, qui était une prostituée, nommée dans la généalogie du Messie. Ruth, qui était une non-juive, une moabite, nommée dans la généalogie du Messie. Bathsheba, vous me direz une victime, c'est vrai, de David. Alors qu'elle était mariée avec Uri, David est allé vers la femme d'Uri, Bathsheba. Et elle est nommée dans la généalogie comme la femme d'Uri, pas de David. David va finalement faire tuer Uri et va la prendre pour épouse. Mais Matthieu dit, non, oubliez David, c'est la femme d'Uri. Et donc Matthieu est en train de nous dire, comme Jean était en train de souligner dans Jean 4, que le message est clair. Les Écritures sont claires. Le projet de Jésus en venant comme Messie, c'est un projet de restauration. Le message implicite, c'est que Dieu construit son œuvre avec les femmes. Le Messie vient des femmes, pour les femmes et pour les hommes. Le message est clair. La femme est celle qui donne la vie. C'était la promesse que Dieu avait donnée avec son jugement à Ève dans le jardin, n'est-ce pas? Ta descendance lui écrasera la tête. Donc, dans la généalogie de Jésus, le signal est encore super clair. Maintenant, le signal ne peut pas être plus fort que dans Marc 16, où Jésus va apparaître, premièrement après sa résurrection, à une femme. Encore une fois, je ne veux pas être odieux, mais rappelez-vous, leur témoignage ne valait rien en cours. Jésus dit, oui, son témoignage va souffler. Marie-Madeleine, c'est ce qu'on lit dans Jean 16. Il apparut d'abord à Marie-Madeleine. Dans une culture où on rejetait leur témoignage, Dieu choisit des femmes comme premières témoins, signal puissant pour le royaume de Dieu. Donc, comme femme, je ne sais pas c'est quoi ton histoire, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce que tu traînes, ce que tu apportes. Comme homme, je ne sais pas comment tu regardes les femmes. Mais je sais comment on devrait se regarder les uns les autres. Et à travers cette série-là, on n'a pas toutes les réponses. Mais je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin que je vous donne, qu'on vous donne toutes les réponses. Ce qu'on a besoin, c'est de retourner vers les Écritures, de comprendre l'Esprit de Christ et laisser l'Esprit de Dieu nous conduire comme Église. Amen. Dans nos rapports les uns avec les autres. Moi, ce que je m'attends de l'espoir, c'est que cette semaine, on engage des conversations différentes. Qu'on ait une attitude d'écoute différente. C'est ce que Jésus fait avec la Samaritaine. Il engage une conversation qui était inadmissible. Et il est vraiment à l'écoute, c'est un vrai dialogue qu'ils ont ensemble. Je m'attends à ce qu'on fasse un effort à s'honorer mutuellement. Pas seulement dans nos foyers, entre frères et sœurs. Une des images les plus fortes du Nouveau Testament pour décrire l'Église, c'est la famille de Dieu. Et donc, là où, avant d'être chrétien, je m'en confesse comme homme, pour moi, une femme, c'était une conquête à faire. Bon, comme chrétien, j'avais quand même une conquête à faire. Je l'ai mariée. C'est mon épouse, ça fait 33 ans. Gloire à Dieu. Mais après, les femmes, c'est mes sœurs dans l'Église. Et donc, mon rapport avec les femmes doit changer complètement. Ça devient sain et bon. Je termine avec ceci. Toujours dans cette idée que Jésus envoie un signal. Il envoie un signal très fort, c'est une création renouvelée. On retourne dans Genèse avant la chute. On lit dans Galates. Galates 3:28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Paul n'est pas en train de dire que tout d'un coup, le genre n'existe plus. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. En fait, si vous connaissez Paul, vous savez très bien que ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. On va en parler la semaine prochaine. Il n'est pas en train de dire que tout d'un coup, celui qui était esclave n'était plus esclave. Au contraire, Il va même dire aux esclaves d'honorer leur maître, en donnant un signal aussi qui va conduire beaucoup plus tard à l'abolition de l'esclavage. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en termes de dignité, tout change. Tout change avec l'Évangile. Voici comment le théologien qui m'a le plus influencé dans ma vie, D.A. Carson, voici comment il le dit. « Paul ne supprime pas les rôles dans la communauté, mais il abolit toute hiérarchie de valeurs. L'accès à Dieu, la justification, l'héritage sont identiques pour hommes et femmes. » F.F. Bruce, qui est vraiment un des hommes les plus respectés sur la terre dans la théologie du Nouveau Testament, écrit ceci. Galates 3:28 affirme de la manière la plus claire qu'en Christ, aucune distinction de valeur, de proximité ou d'héritage ne sépare hommes et femmes. James Dunn dit ceci, « Il ne s'agit pas de nier les rôles, mais de déclarer que rien de ce qui fait l'être devant Dieu ne diffère entre hommes et femmes. » Voyez-vous, si Christ est exclu de notre compréhension des rapports entre les hommes et les femmes, on va avoir soit tendance à dire qu'il n'y a aucune distinction, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme, ce qui est biologiquement complètement absurde, sociétalement c'est complètement absurde. Je suis désolé de le dire comme ça, les amis, mais les femmes et les hommes se sont battus tellement longtemps pour que les femmes puissent faire du sport sans qu'on vienne aussi leur arracher ça. D'accord? Donc, la réalité, c'est qu'il y a une distinction. Mais si Christ est exclu de ça, quelle solution on va trouver? Bien, soit que ça va être dans des rapports extrêmement patriarcales, traditionnels, dominants, ou soit qu'on va essayer de nier toute différence. Et Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure l'humanité. Il dit non, vous êtes beaux comme vous avez été créés. Dans la Genèse, hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu, tous les deux. Ils sont différents, à certains égards, avec des rôles différents. Je n'ai pas mis d'enfant au monde. C'est ma merveilleuse épouse qui en a mis deux au monde. Et on va continuer à parler des rôles dans les prochaines semaines. Mais Jésus vient et il restaure en envoyant un signal extrêmement clair. Cette chaise-là n'est pas appelée à être vide. Jésus y invite des femmes à s'asseoir. Elles sont près de lui, elles servent avec lui, elles sont reconnues, équipées, instruites, envoyées dans la mission. Littéralement, envoyées dans la mission. Avant même qu'un homme annonce la résurrection de Jésus, une femme le fait. Avant même d'envoyer ses disciples de ville en village, une femme samaritaine y va, puis elle ramène un village à Jésus. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, les amis. Je n'ai pas toutes les réponses, mais le signal est très clair. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Je veux laisser ces trois images dans votre esprit. Une école rabbinique, et à quelque part, l'Église doit être un endroit où on voit ça. Les femmes s'équipent, connaissent la parole, sont là, engagées avec nous. Un puits où on franchit les barrières. Je ne sais pas quelle barrière tu as à franchir. Que tu sois homme, que tu sois femme, je ne sais pas quelle barrière culturelle tu as à franchir pour ressembler à Jésus. Peut-être que c'est dans votre relation à la maison. Peut-être que c'est dans ton rapport avec les filles à l'école, au collège. Parce que les rapports entre les hommes et les femmes sont fracturés. Ils sont marqués par de la méfiance, de la manipulation, de la domination. Nous ne sommes plus des partenaires. Mais en Jésus-Christ, nous redevenons des partenaires pour la mission, littéralement. Et donc, dans l'Église, cette chaise-là ne doit pas être vide. Elle doit être occupée. Je n'ai pas toutes les réponses. C'est à toi, à moi, d'aller dans la prière et dire, « Seigneur, montre-moi comment nos rapports peuvent changer. Montre-moi comment on peut honorer cette dignité que tu reconnais et aux hommes et aux femmes. » Et la société, lorsqu'elle entre en contact avec nous, appréciera peut-être pas tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait sur les rôles des hommes et des femmes. Mais je crois que bien des gens vont intuitivement sentir que toute personne est appréciée ici et valorisée. Et que tu n'as pas besoin de devenir un homme pour être respecté ou quoi que ce soit. Non, il y a une dignité profonde que Dieu t'a donnée parce qu'il t'a créé à son image. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, tu es incroyable. Un ami à moi disait, si tu veux bouleverser l'Église, si tu veux révolutionner l'Église, va vers le plus grand révolutionnaire de la Bible, Jésus. Mais c'est ça qu'on fait ce matin, Seigneur. On vient se placer à tes pieds pour recevoir ta parole, pour laisser ta parole venir nous restaurer, Seigneur. Pour laisser ta parole venir nous parler, nous transformer, Seigneur. Et par chacun d'entre nous, on a une histoire personnelle, particulière, différente. Histoire heureuse, histoire malheureuse, homme ou femme. Seigneur, on vient humblement à tes pieds pour te dire, viens nous restaurer. Viens premièrement faire une œuvre à l'intérieur de nous.